Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être ici présents dans la maison du Seigneur pour l'adorer et le louer, et en même temps pour écouter le message de sa parole. J'aime bien dire, bien j'aime bien répéter, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. C'est une réalité. Nous savons qu'un jour, nous serons avec le Seigneur dans le ciel. Mais présentement, nous sommes encore sur terre. Et le monde dans lequel nous vivons prône beaucoup de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parfois, ces choses prônées par le monde nous sont tellement familières que nous ne pouvons plus les considérer comme des péchés. Nous avons les médias qui nous entourent, qui ne cesse de diffuser ou d'étaler de quoi alimenter nos pensées de désirs impurs avec toutes les pulsions qui peuvent en résulter. Et le pire, cela pénètre aujourd'hui même dans les écoles, à travers les téléphones portables et à travers certains cours d'éducation sexuelle. Et en tant que chrétiens aussi, nous ne prenons pas toujours le temps de comparer le fonctionnement de ce monde à la parole. Quand je dis la parole de Dieu, à ce que nous enseigne la Bible. Chers frères et sœurs, pour nous qui sommes fils et filles de Dieu, la Bible nous conseille, ou bien la Bible nous exhorte à entretenir une relation étroite avec notre Seigneur. C'est ce que Dieu veut même. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 1er, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est-à-dire, le nom de Dieu doit être glorifié dans tout. Parce que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour notre Dieu, notre Seigneur. Le sujet de ce matin est le suivant. On peut le formuler de deux façons. Le plan de Dieu concernant la sexualité pour les croyants. Ou bien interdiction pour nous qui sommes chrétiens d'avoir une relation sexuelle avant le mariage et hors du mariage. On peut le formuler de deux façons. Interdiction pour nous qui sommes serviteurs et servantes de Dieu d'avoir une relation sexuelle avant le mariage ou hors du mariage. C'est un sujet d'actualité. Par rapport au scandale qui s'est produit dernièrement avec l'affaire qui s'est passée aux États-Unis, j'ai du mal à, comme je parle pas trop, je maîtrise pas trop mon anglais, et le monsieur s'appelle, c'est un producteur américain, Weinstein. Chers frères et sœurs, il y en a qui se trompent. Oui, il y en a qui se trompent. Pensant avoir une bonne relation avec son Dieu, avec son Seigneur, en étant même très actif, en participant à toutes les activités de l'Église, au lieu de se laisser diriger par l'Esprit Saint, Ils préfèrent se conformer aux règles de la société actuelle. Une société, chers frères et sœurs, qui méprise les enseignements bibliques. Une société qui refuse d'accepter la Bible comme étant la parole de Dieu, comme étant la vérité. Une société qui juge ces enseignements bibliques comme obsolètes et plus adaptés à l'époque actuelle. Et il y en a même qui disent qu'il n'y a aucun mal d'avoir de relations sexuelles avant le mariage. Ils avancent même en disant que c'est un avantage de bien se connaître avant de se marier. Et le pire, c'est que parfois on retrouve cette réflexion même dans nos églises. Au point que certains frères et sœurs n'hésitent pas à se laisser prendre au piège. Un jour, j'ai même entendu un responsable d'église dire qu'un tel comportement ne le dérange pas, que ça ne le dérange pas. Mais il oublie une chose. Nous qui sommes serviteurs et servantes de Dieu, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. La volonté de Dieu passe avant toute chose. Nous devons nous soumettre aux enseignements de la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde, surtout pour ceux qui vivent dans des pays développés, les jeunes d'aujourd'hui, quand je parle de jeunes, je ne parle pas des jeunes de l'Église, je parle de façon générale. Les jeunes d'aujourd'hui ne dépendent plus de leurs parents financièrement, ils sont autonomes. Il y en a qui ont leur propre logement, c'est bien. Il y en a qui ont leurs propres moyens de déplacement. Jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. Et par rapport à tout cela, ils peuvent emmener n'importe qui et recevoir n'importe qui en faisant ce qui bon leur semble. Et en rejetant un peu la parole de Dieu. Dans notre société, il n'y a aucun problème pour que deux personnes non mariées vivent ensemble. Sous le précédent quinquennat, nous l'avons bien vu. Au sommet de l'État. On vit dans une société où il n'y a plus de modèle, plus de repères. Au contraire, on n'hésite même pas à dire qu'il faut faire disparaître ces tabous sociaux qui empêchent les gens de s'épanouir par le plaisir sexuel. En un mot, on vit dans une société qui est obsédée par le plaisir sexuel. C'est ce que le monde prône. Mais face à cette situation, chers frères et sœurs, que dit la Bible? Quel est le plan de Dieu pour nous concernant la sexualité? Dans mon introduction, je disais que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes des citoyens du royaume. Eh bien, puisque nous ne sommes pas du monde, et que nous sommes des citoyens du royaume, chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes sous l'autorité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes sous l'autorité de notre Dieu. puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, puisque nous croyons que la Bible, c'est la vérité, nous allons voir ensemble pourquoi toute relation sexuelle est interdite avant le mariage et hors du toit conjugal. Nous allons considérer ensemble quelques versets qui nous parlent des relations sexuelles. Le premier passage que je vais vous lire se trouve dans Genèse 2, versets 21 à 24. Genèse, chapitre 2, le verset 21 à 24. Je vous laisse le temps de trouver le passage avant de le lire. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Je lis. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux. Devenons une seule chair. À partir de ces versets, nous pouvons dire, chers frères et sœurs, que l'institution du mariage est divine. C'est tellement une réalité au point que toutes les cultures le reconnaissent. Dans toutes les cultures, soit orientales, occidentales, je ne sais pas quoi. Parce qu'il a été institué par Dieu. Parce que c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Même si parfois les cérémonies peuvent prendre des formes différentes selon certaines sociétés. Puisque l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, dont l'acte sexuel n'est légitime que dans le cadre du mariage et le mariage seul. Son but, c'est l'unité conjugale. Son but, c'est la procréation. Donc, toute relation sexuelle en dehors de ce cadre qu'est le mariage est considérée comme impureté ou de la débauche aux yeux de notre Dieu. Il y a un deuxième passage qui se trouve aussi dans 1 Corinthiens 6. Versets 9 à 10 et versets 13 à 20. Et Corinthiens 6, versets 9 à 10 et versets 13 à 20. J'aimerais que vous Je vais vous lire ce verset. J'aimerais que vous suivez avec moi. Il dit : Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est tellement clair, pas besoin de faire de commentaires là-dessus. Verset 13, il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec, est un seul corps avec elle, car il est dit que les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. C'est un ordre. Hein? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Chers frères et sœurs, comme nous venons de le lire, nous sommes le temple de Dieu. Dieu a mis son esprit en nous. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et ce matin, le Seigneur nous demande de fuir l'impudicité. Premièrement, parce que c'est un péché qui nous dénature. Deuxièmement, c'est un péché qui nous empêche de faire ce pourquoi on a été appelé. C'est-à-dire de mener une vie de sanctification. Et de glorifier le nom de notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Dieu veut que son nom soit glorifié à travers nous. C'est ce qu'il nous demande. C'est ce qu'il veut. Il ne faut pas oublier que notre corps n'a pas été fait pour la débauche, mais pour Dieu. La débauche, l'impudicité, pour être plus clair, la relation sexuelle avant le mariage coupe notre communion avec Dieu. Et chers frères et sœurs, je peux vous dire ce matin que c'est une âme très puissante que le diable a utilisée dans le temps et qu'il utilise encore aujourd'hui pour nous empêcher de marcher avec le Seigneur, pour nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Dans le livre des Nombres, au chapitre 24 et verset 25, c'est une histoire assez connue, quand Dieu a utilisé Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël, et de conduire ce peuple en Canaan. Israël traversa le désert. Et la Bible dit que dans la marche de ce peuple vers Canaan, le peuple d'Israël campa devant la ville de Moab. Et cette ville avait pour roi un certain Balak, qui était roi de ce pays-là de Moab. La Bible dit que les Moabites furent effrayés en face d'un peuple si nombreux. Et ils dirent aux anciens, il n'y a plus d'espoir pour nous. Cette multitude-là va nous marcher dessus et va dévorer tout ce qui nous entoure. Alors le roi Moab, à savoir Balak, envoya des messagers auprès d'un certain Balaam. C'est un vieux monsieur qui avait un esprit, qui avait un don un peu surnaturel. C'était un devin. Le roi de Moab envoya des messagers auprès de lui pour lui demander de venir et de maudire le peuple d'Israël. Les messagers arrivaient auprès de la maison de Balaam. Et Balaam leur dit, vous passez la nuit ici, chez moi. Et je vous donnerai la réponse demain. D'après ce que l'Éternel me dira. Ce n'était pas un prophète de l'Éternel. Ce n'était pas un serviteur de Dieu. Comme je disais, c'était un devin. Il avait un don surnaturel. Balaam se leva le matin. Il dit au messager du roi Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser partir avec vous pour maudire son peuple. Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé pendant la nuit. Les messagers retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Le roi envoya un deuxième groupe de messagers avec beaucoup de présents, cette fois-ci. Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, tu peux partir, va avec les hommes, va avec les messagers. Mais arrivé sur place, tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Arrivé sur place, Balaam, au lieu de maudire le peuple de Dieu, prononça son oracle en disant, comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Chers frères et sœurs, c'est juste pour montrer que nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est d'obéir à Dieu. Le roi de Moab était irrité et Balaam lui a dit, ce n'est pas de ma faute, j'ai reçu l'ordre de bénir le peuple. C'est plus fort que moi. Parce que le peuple d'Israël, ce n'était pas n'importe qui. C'était le peuple choisi par Dieu. Ce peuple a été sous la protection de Dieu. Comme nous avons l'habitude de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu était avec le peuple. Dieu marcha avec le peuple. Dieu a opéré pas mal de miracles pour ce peuple-là. Et Dieu les a protégés. Mais chers frères et sœurs, plus loin dans le chapitre 25, il dit, puisque Balaam n'arrivait pas à prononcer des malédictions sur le peuple de Dieu, mais il trouva quand même un autre moyen d'entretenir sa chute, d'entretenir la chute de ce peuple. Il conseilla au roi de Moab d'envoyer les filles moabites vers les Israélites. Et les filles, une fois arrivées, que faisaient les Israélites? Ces jeunes-là, les hommes qui étaient parmi le peuple. Il se livrait à la débauche avec les filles de Moab. Dieu les protégea face à Balaam. Et maintenant, ils méprisèrent les enseignements de Dieu. Ils méprisèrent l'ordre de Dieu au point qu'ils se livraient à la débauche avec les filles de Moab, avec des filles étrangères. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. et en faisant périr 24 000 personnes. 24 000 hommes tombèrent. Périr. Parce que ces gens-là méprisèrent la parole de Dieu. Tout ça, chers frères et sœurs, ces versets nous montrent que le Seigneur considère les relations sexuelles avant le mariage ou hors du mariage comme de la débauche ou de l'impudicité. La débauche, l'impudicité. C'est un péché. Et nous savons très bien, chers frères et sœurs, que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, nous n'avons aucun doute à ce sujet. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 13 au verset 14, que le mariage soit honoré de tous. Je répète le verset, Hébreux 13, verset 14, qui dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Oui, notre Dieu ne veut pas que nous ayons des relations sexuelles hors du mariage ou avant le mariage. En tant que Dieu, en tant que Père, il nous aime. Et il nous parle ce matin en connaissance de cause. Car s'il déclare que pratiquer ces choses, c'est commettre un péché, c'est bien parce qu'il connaît les fâcheuses. Et désastreuses conséquences que cela peut entraîner tôt ou tard dans notre vie. Notre Dieu ne se trompe jamais. Je peux me tromper. Le pasteur peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Il est notre Père. Ses lois sont parfaites. C'est lui qui nous a créés et qui désire que nous menions une vie sainte. Une vie sans péché. Et ce matin, j'aimerais vous dire que c'est en mettant en pratique les commandements de notre Seigneur, en mettant en pratique la parole de Dieu, que nous serons vraiment libres. Car sa parole seule nous libère. Si vous, qui êtes là ce matin, et moi, qui suis devant vous, nous sommes allés trop loin, de moi. Et que nous nous sommes écartés de la voie de Dieu. Ce matin, une vraie repentance, je dis, une vraie repentance nous permettra de retrouver notre relation avec Dieu. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas pour que le pécheur périsse. Mais c'est pour que tout le monde ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. Oui, ce matin, une vraie repentance nous permettra de retrouver notre relation, notre communion avec notre Seigneur. Car le sang de Jésus, qui a coulé à la croix pour nous, peut nous nettoyer. Le sang de Christ peut nous purifier de toute souillure. Le sang de Christ peut nous purifier de toute anomalie qui se sont introduites en nous par le moyen de l'immoralité sexuelle. Chers frères et sœurs, je ne suis pas là ce matin pour porter un jugement. Non, loin de moi. Qui suis-je? Un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Qui n'a pas péché ce matin? Est-ce qu'il y a un juste parmi nous ce matin? Oh, Dieu nous a déclaré juste. Mais est-ce que Est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi nous qui, en connaissant, quelqu'un parmi nous, en tant que serviteur et servante de Dieu, qui peuvent dire qu'il n'a pas péché? Personne. Le sang de Christ peut nous purifier. Mon but n'est pas qu'on se culpabilise, mais tout simplement, c'est pour que vous et moi, nous remettions notre vie en ordre avec notre Seigneur qui nous aime, non seulement qui nous aime, qui est prêt aussi à nous pardonner et qui veut nous purifier de toute souillure. Ce matin, le Seigneur veut que nous retrouvions notre communion, notre intime communion avec lui. Parce que nous sommes le temple de Dieu, nous appartenons à Dieu. Personnellement, moi qui vous parle ce matin, si Dieu tenait compte de mon passé, je ne serais pas ici. Je vais vous partager un bref témoignage de ma vie. Je me souviens comme si c'était maintenant. La première fois, la toute première fois que j'ai vu Yolaine, celle qui est devenue mon épouse. La toute première fois que je l'ai vue, je l'ai approchée, pour la première fois. Et je l'ai approchée, je lui ai dit en créole, et, belle Simone, ça va? Alors, quand je dis belle Simone, je dois dire sans faute, c'est vous. Et jolie demoiselle, tu vas bien? Alors, en français, ça dit jolie demoiselle, tu vas bien? Elle m'a jeté un regard furieux. En disant, Jean, comme ça dit, Jean, j'ai pas besoin de tes salutations. Parce que moi, je fréquente jamais les vagabonds. Ah oui, comme ça. Je fréquente jamais les vagabonds. Les parents de Yolaine et les miens habitaient dans la même rue. C'était des voisins. Alors tout le quartier connaît, savait qui j'étais. Ah oui, bien, je savais qui j'étais. Alors c'est pour ça qu'il a eu cette attitude. Heureusement, et fort heureusement, Dieu a utilisé les parents de Yolaine, son papa de Yolaine était pasteur, a utilisé son papa, pour m'aider à revenir dans le droit chemin. Tout cela pour vous dire, encore une fois, si Dieu tenait compte de mon passé, je ne serais pas ici présent pour vous parler. Il en est de même pour chacun de nous. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Car il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que vous, vous absteniez de la débauche. C'est la Bible qui parle. C'est que chacun de vous, verset 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est pour cela que Dieu, notre Seigneur, nous demande de fuir l'impudicité. C'est pour cela que notre Seigneur nous demande de nous préserver de tout ce qui peut corrompre notre pensée et nos idées. C'est pour cela ce matin que Dieu nous demande de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Car la Bible dit, c'est de l'impudicité et de la débauche. Et pour finir, j'aimerais vous laisser avec un verset que j'aime bien. C'est cette parole de Paul adressée aux chrétiens de Rome qui dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Oui, chers frères et sœurs, ne nous conformez pas au siècle présent. Un siècle qui est obsédé par la sexualité, par le plaisir, par tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Avant de... J'aimerais bien demander à notre pasteur, à qui Dieu confie une tâche importante, celle de diriger cette assemblée. Si tu veux bien passer devant, j'aimerais bien te demander de prier en tant que responsable pour nos jeunes, pour nos ados, pour toute l'Église, pour que Dieu nous préserve. Ce péché-là, merci.
Inclinons-nous tous. Seigneur, en ce matin où nous avons été au profit de ta parole par la voix de ton serviteur Jean, nous venons nous incliner humblement devant toi. Nous nous inclinons, mais pour te remercier pour ta grâce, cette grâce infinie qui s'est exprimée par l'œuvre de ton Fils à la croix, lui qui est mort pour nous et qui est ressuscité, lui qui nous offre sa justice, afin qu'au jour où tu nous appelleras devant toi, malgré le poids de nos péchés, tu nous vois à travers ce que ton Fils a accompli et nous vois comme justifiés. Pour autant, Seigneur, nous ne pouvons que nous incliner encore devant toi et te demander pardon. Pardon pour l'ensemble de ce que parfois nous faisons et disons et qui te déplaise, et notamment pardon aussi pour ce que nous avons pu commettre, vivre ou même concevoir simplement parfois dans notre esprit à propos de ce don que tu nous as fait, de la sexualité, et qui parfois se conforme plus à ce qui se dit et se vit dans ce monde qu'à ce que toi, tu as voulu nous offrir. Oui Seigneur, que tu puisses encore nous transformer, afin que nous puissions regarder aussi à ce don merveilleux qu'est la sexualité qui vient de toi, que nous puissions la comprendre telle que toi tu nous l'as offerte, avant même que l'homme ne pêche, et que nous puissions la vivre pour ceux qui aujourd'hui sont déjà mariés, et que pour ceux qui, effectivement, sont dans l'attente un jour de trouver ce conjoint, puissent aussi la vivre sous ton regard, sous ta bienveillance, et dans la joie de ce cadeau précieux aussi que tu nous as offert. Seigneur, surtout dans ce monde qui, quelque part, nous regarde comme souvent des fous ou des ringards, surtout quant à ce sujet, Seigneur, que par l'œuvre de ton esprit en nous, nous puissions savoir discerner là où est pour chacun d'entre nous ta volonté, que nous soyons jeunes et dans l'attente un jour de trouver quelqu'un avec qui nous pourrons nous associer, avec qui nous pourrons former alliance comme toi avec nous et de vivre aussi de ce don précieux. Oui Seigneur, par l'œuvre de ton Esprit Saint en nous, que tu puisses nous transformer et nous inviter à savoir discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Seigneur, que tu nous aides aussi par la force que nous donne ton esprit à savoir porter ce fardeau aussi de savoir suivre ta volonté pour nous, quitte à déplaire, à être regardé de travers dans ce monde qui ne te comprend plus. Seigneur, vraiment aide-nous à avancer sur ce chemin que tu as voulu et que tu nous offres, ce chemin par lequel nous sommes aussi invités et poussés par l'Esprit Saint à te suivre, et qu'il puisse s'accomplir dans tous les domaines de notre vie, et notamment aussi dans ce domaine de l'intimité, ce domaine de l'exclusivité, afin que nous puissions là aussi t'honorer par ce que nous pouvons vivre avec ce conjoint aussi, que tu nous auras offert ou que tu nous as déjà offert. Seigneur, pour tous ceux aussi qui peut-être l'ont désiré longtemps et aujourd'hui se retrouvent seuls aussi que tu puisses leur donner la force de résister. Parfois, ces différentes tentations qui sont tellement encore plus présentes et vendues encore dans ce monde. Seigneur, que tu puisses nous préserver tous au sein de cette communauté, dans la période de vie aussi qui est la nôtre, dans les tentations qui peuvent être les nôtres. Que tu nous préserves afin que ce corps qui accueille aujourd'hui ta présence, celle de ton esprit, puisse continuer de t'honorer en œuvrant et en nous conformant à ce qui te semble bon pour nous et non pas ce que ce monde semble vouloir nous dire qui soit bon pour nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen.